Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 23 octobre 2021. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, nous aurons l'actualité, le sport également. Nous partirons en direction l'année 1983 dans notre rubrique rétrospective. Et nous parlerons également d'un livre poignant, le récit d'une soirée qui tourne mal à Sydney. Et pour l'heure, on va passer au journal. D'abord, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Victoria qui signale 1750 nouveaux cas de Covid-19 donc dans l'État, alors que la ville de Melbourne s'est préparée et a profité des restrictions plus assouplies. Un appel à un examen de la sécurité sur les plateaux de tournage, alors qu'une star du cinéma hollywoodienne s'exprime sur une tragédie qui s'est passée donc aux États-Unis. Et les États-Unis, eux encore, qui haussent le ton avec la Chine sur le cas de Taïwan. Je viens de vous le dire en titre, 1750 nouveaux cas de Covid-19 et 9 décès dans le Victoria, alors que Melbourne profite de son premier week-end hors confinement. Plus de 39 000 vaccins ont été administrés dans les centres gérés par l'État et 72% des Victoriens sont désormais entièrement immunisés. Le nombre des patients de Covid-19 hospitalisés est tombé à 770, mais le commandant des tests pour l'État, Jérôme Weimar, a déclaré qu'il y a eu une augmentation inquiétante d'ailleurs du nombre de cas parmi les personnes du Victoria et surtout dans les régions hors métro, ce qui représente donc un tiers des cas de Melbourne. On l'écoute.
So these are our children and our students who are clearly very active in the community. In regional Victoria, 38% of all the cases are under the age of 19. So please, I'd call out to the younger Victorians amongst us, you are particularly vulnerable at this point in time in running into friends and associates who are COVID positive. Please take every care to make sure you don't become one of those statistics.
Voilà donc pour les statistiques dans le Victoria. Les ordonnances de séjour à domicile ont été levées hier après que la barre des 70% de la double dose a été atteinte. D'autres restrictions devraient être assouplies le week-end prochain alors que l'État se rapproche du chiffre des 80% des plus de 16 ans entièrement vaccinés. Le directeur de la santé, le professeur Brett Sutton, a approuvé qu'une foule de 5500 amateurs de chevaux de course hippique à Flemington pourra avoir lieu le week-end prochain, samedi prochain, pour le Derby Day. Direction la Nouvelle-Galles du Sud maintenant, il y a eu 332 nouveaux cas de coronavirus acquis localement dans l'État et deux nouveaux autres décès. 479 patients sont encore hospitalisés avec 123 qui sont en soins intensifs. Le chiffre de la première dose de vaccination dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud est maintenant atteint 92,8% pour la première dose donc et 83,7% pour les deux doses complètes donc de la vaccination contre le Covid-19. Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, demande au gouvernement fédéral d'autoriser davantage de travailleurs étrangers dans le pays pour aider les industries touchées par la pandémie à se rétablir. On l'écoute.
Obviously, our focus is on returning Australians. But we need to address the skills shortage and the labour shortages across the state. And that occurs in regional New South Wales with a lot of agricultural industries, but also particularly in hospitality, who are doing it tough. What the feedback I've received over the last week is trades up 200%, but staff's down 50%. And that is a real challenge facing the hospitality sector in New South Wales.
Voilà donc Monsieur Perrottet, le premier de la Nouvelle-Galles du Sud. Le Queensland qui a lancé un vrai blitz dans le but d'augmenter le nombre de vaccinations. Nombre de vaccinations en déclin dans certaines régions de l'État. Les jeunes résidents et ceux en dehors de la capitale Brisbane sont ciblés avec 116 écoles ouvertes comme sites de vaccination Covid-19, des sites de type pop-up. L'État n'a signalé aucun nouveau cas de Covid-19, mais le directeur adjoint de la santé, le docteur James Smith, a averti que le virus se propage. Se propagerait avec la réouverture des frontières. Il dit que de futurs confinements pourraient être nécessaires dans les zones où les taux de vaccination sont trop faibles. On l'écoute.
in many regional and remote areas, particularly in smaller communities, I guess there's a sense of apprehension and even a sense of complacency, people feeling that perhaps COVID isn't the immediate risk that it actually is. Those people also often have more difficulty accessing health services due to the geographic location that they live in.
Voilà, donc le Dr Smith pour le Queensland. Et pour conclure notre page COVID-19 dans ce journal, la société pharmaceutique Pfizer affirme que des doses plus faibles de son vaccin se sont avérées efficaces à plus de 90% chez les enfants. La société a publié les résultats de son étude alors que les régulateurs américains envisagent d'ouvrir la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Le Dr Larry Kosiolek, spécialiste des maladies infectieuses au Lurie Children's Hospital de Chicago, dit que les résultats sont rassurant.
If we compare antibody responses in adolescents and young adults, children 5 to 11 years of age who get that lower dose, their antibody levels are just as strong. And so that allows us to use a dose that's about 70% lower in children age 5 to 11 than has been used in adolescents and young adults. Presumably, that would mean fewer side effects.
13h06, Alec Baldwin a parlé de l'incident au cours duquel un directeur de la photographie de son dernier film a été tué par un pistolet tiré par la star hollywoodienne. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Alec Baldwin a déclaré qu'il n'y avait pas de mots pour exprimer son choc et sa tristesse concernant l'accident tragique donc, qui a coûté la vie à Alina Hutchin, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Ce sont ses mots. Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Alina. Fin de citation. Hutchin a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de l'Université de Mexico où elle a, sur le coup, été déclarée morte. Le collègue André Semenyuk a décrit la jeune femme comme incroyablement talentueuse et une étoile brillante du cinéma américain. Il dit que l'incident doit maintenant entraîner des changements dans les procédures de sécurité sur les plateaux de tournage. On l'écoute.
We need to learn what really happened because there is people who are actually responsible for arms and sad. And to hear about really what went wrong. And I think, you know, it just is such a shocking stuff that there's no matter what you say, it's not going to bring her back.
Plus d'infos sur ce sujet sûrement dans notre édition de demain. Par rapport à la politique en Europe, la Grèce a mis en garde contre une catastrophe européenne si les pays de l'Union européenne commençaient à restreindre unilatéralement la circulation des citoyens pour protéger leurs frontières extérieures. Alors, la Pologne, la Lituanie, qui sont membres de l'Union européenne, ont du mal à faire face à un nombre inhabituellement élevé de migrants arrivant avec leurs frontières avec la Biélorussie. C'était au cours de ces derniers mois. Des milliers de migrants ont été attirés vers la Biélorussie avec des visas touristiques et encouragés par la suite à entrer en Pologne et en Lituanie et dans une moindre mesure en Lettonie. L'Union européenne accuse le régime biélorusse de les utiliser pour déstabiliser le bloc des 27 pays et ce par rapport aux représailles des sanctions de l'Union européenne donc vers la Biélorussie. S'exprimant après un sommet, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a remis en question l'avenir tout simplement du bloc des pays Schengen.
And it would be a European catastrophe if we got to the point of countries unilaterally suspending the responsibilities that come from Schengen, effectively closing their borders, limiting the free movement of citizens, because as the European Union we cannot effectively protect our European borders.
Voilà donc les propos traduits du Premier ministre grec. 13h09, nouvel appel entre Joe Biden et Emmanuel Macron hier, après que le pays essaye de reconstruire ses liens après la crise, vous en doutez très certainement, des sous-marins australiens. Les deux hommes se rencontreront pour la première fois depuis donc cette affaire à Rome en marge du G20. Ce sera en décembre. Les États-Unis d'ailleurs serrent la vis avec la Chine au sujet de Taïwan, cette île revendiquée par Pékin mais toujours reconnue comme indépendante par la communauté internationale. Écoutez les propos de Roger Hurtebise. Il est maître de conférence à l'université de Fulan à Taïwan sur les relations américano-chinoises.
Il faut quand même montrer la readiness, le fait que les États-Unis sont prêts. C'est-à-dire qu'il faut affirmer qu'on est prêt, ça ne veut pas dire forcément qu'on va le faire, mais il faut montrer que, du point de vue des États-Unis, la potentialité de répondre à ce qui serait une attaque. hein, mais du point des États-Unis, pourquoi est-ce qu'il y a cette ambiguïté stratégique? C'est qu'il s'agit aussi en même temps de dissuader Taipei de faire, par exemple, une déclaration d'indépendance précipitée, qui serait, elle, on va dire, la réaction à ça, ce sera l'attaque de la Chine. Donc il s'agit en même temps de dire à la Chine, on est prêt, et en même temps de dire à Taïwan, attention, essayez de modérer vos propos et vos actions pour ne pas nous obliger à rentrer dans la guerre.
Voilà, donc situation compliquée entre Taïwan, les États-Unis et la Chine. En France maintenant, Rémi Daïès, ce jeune homme issu des milieux d'extrême droite qui avait déjà été mis en examen pour l'enlèvement par sa mère de la petite Mia, demandé par sa mère par la petite Mia, eh bien c'était l'année dernière, et une nouvelle fois a été arrêté, cette fois-ci pour des faits liés au terrorisme. Joris Silverman.
Et oui, c'est pour association de malfaiteurs terroristes criminels que Rémi Daïès a été mis en examen ce vendredi. L'affaire est suivie par le pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris. Il est soupçonné, je cite, de projets de coup d'État et d'autres actions violentes. Parmi elles, un attentat contre une loge maçonnique de l'Est de la France. Ce que Rémi Daïès conteste, il a néanmoins été remis en détention provisoire. Alors, autre mise en examen pour le même chef d'accusation, sa secrétaire, âgée de 67 ans. Elle a été interpellée mardi dans l'Aude avant d'être placée, elle, sous contrôle judiciaire. Selon des sources proches du dossier, Rémi Daïès est soupçonné d'être le cerveau d'un groupe projetant des actions violentes. Alors au total, cela fait 14 personnes appartenant à l'ultra-droite, dont 2 militaires qui ont été mises en examen dans cette affaire. Ce groupe serait convaincu qu'Emmanuel Macron est au service de l'argent et qu'il faut en finir avec le grand capital. Ces hommes avaient l'idée d'un coup d'État, d'un renversement du gouvernement français.
C'était Joris Silverman, donc pour RFI. En France toujours, une prime de 100 euros sera distribuée aux personnes ayant des revenus inférieurs à 2000 euros par mois, et ce pour contrecarrer la hausse des prix de l'énergie. Rencontre avec des utilisateurs d'une station-service dans la région parisienne avec Stéphane Duguet.
Dans cette station-service de banlieue parisienne, un drapeau jaune fluo indique en lettres rouges « ici, prix bas ». Le litre de gasoil coûte 1,56€ et le sans-plomb 1,62€. Pas de quoi réjouir les automobilistes qui mettent un peu d'essence. Maria est mère au foyer et sans emploi. Malgré les 100 euros annoncés par Jean Castex, elle ne décolère pas.
C'est rien du tout. La vie est très dure. Je n'ai pas d'argent pour acheter des yaourts, tout simplement. Tout est cher.
Un constat partagé par BKI, 60 ans. Il se dit prêt à aller manifester contre les hausses du prix de l'essence.
Le plein, on a plus de 10 euros, 15 euros de plus répercuté dans le mois. Je fais 2 pleins, donc 20 euros, voilà, il aurait dû baisser la taxe. Et puis essayer de nous aider un peu plus. Hein. Je pense que ça va faire boum. Quand vous touchez au pouvoir d'achat, c'est le pain, la baguette et l'essence.
Dominique, 56 ans, gagne un tout petit peu plus que 2000 euros. Il ne peut pas toucher la prime. Pour lui, c'est 100 euros.
Oh, c'est une aumône. Je trouve ça ridicule. Tout ce qui est énergie, ça devient vraiment un budget très important. Et même pour les ménages moyens dont je fais partie. Et je pense que je ne suis pas le seul.
Au total, ce sont tout de même 38 millions de personnes qui recevront ces 100 euros dans les mois qui viennent.
Allez, coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 19. Melbourne, 15. Hobart, 15. Canberra, 26. Wollongong, 26 également. Sydney, 26 également. Brisbane, 30 degrés. Cairns, 33. Et Darwin, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. 1750 nouveaux cas de Covid-19 dans le Victoria, alors que eh bien, l'État a profité des restrictions assouplies depuis hier. Appel à un examen sur la sécurité des plateaux de tournage aux États-Unis après un accident impliquant Alec Baldwin. Et les États-Unis toujours qui haussent le ton avec la Chine sur le cas de Taïwan. 13h14, courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le sport. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Je... Journal des sports pour ce samedi. On commence avec du football et la 11e journée de Ligue 1 en France. Match avancé, match nul entre Saint-Etienne et Angers hier soir. Les matchs de ce week-end, Nantes recevront Clermont, Lille recevra Brest, Nice recevra Lyon, Rennes recevra Strasbourg, Reims recevra Troyes, Lorient recevra Bordeaux, Lens recevra Metz, Monaco recevra Montpellier et un très beau, bien entendu, Classico Marseille qui recevra le Paris Saint-Germain dimanche soir. En football, encore une fois, 11-0, c'est le score infligé par les joueuses françaises à l'Estonie dans les qualifications pour la Coupe du Monde de football de 2023. On écoute le résumé de ce match avec RFI tout de suite après le coup de sifflet final.
Oui, et vous entendez l'acclamation du public à l'instant, les 5000 spectateurs de Créteil, puisque le coup de sifflet final vient d'être sifflé à l'instant. Le score, vous l'avez dit, 11-0 pour l'équipe de France face à l'Estonie. Alors on se souvient qu'en 2009, les Françaises avaient battu ces Estoniennes, il ne s'agissait pas des mêmes joueuses, hein, mais de la sélection d'Estonie, 12-0, on n'en est pas loin aujourd'hui. 11-0 et tout le monde ou presque a participé à la fête du côté des Françaises avec des buts, des attaquantes, Cascarino, Katoto, Diani. On a même vu la défenseur et capitaine ce soir, Aissatou Tounkara, inscrire deux buts. Une formalité donc pour les Françaises. On s'y attendait. Trois matchs, trois victoires dans ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023. Elles sont en tête de leur groupe. Le prochain rendez-vous dans 4 jours au Kazakhstan.
Au Kazakhstan, oui. 11-0 donc contre l'Estonie. Allez, du foot encore. Bonne semaine pour les clubs français en Ligue des Champions. On fait le point avec Magali Turval pour RFI.
Souvent moqués par leur manque de résultats et aussi leur manque de motivation, les clubs français semblent enfin avoir retrouvé ou trouvé le goût de la victoire en Ligue Europa ou la nouvelle en Ligue Europa Conférence. Ainsi, au cours de la 3e journée, Monaco a gagné à Eindhoven, Rennes a gagné à Maribor ou encore Lyon à Prague. Et arrêtons-nous justement un instant sur les Lyonnais renversant une fois encore. Alors ils l'ont emporté 4-2 après avoir été menés au score, 2-0. Et c'est d'abord Karl Toko Ekambi, juste avant l'entrée salvatrice de Lucas Paqueta, qui a sonné la révolte. Une équipe renversante, une équipe qui a surtout du répondant. Et c'est ce que met en valeur le directeur sportif de cette équipe, le Brésilien Juninho.
Il faut tirer des leçons, mais on est très content de la victoire. En 3 matchs, 3 victoires, 9 points, on n'est pas encore qualifié, mais on a fait un grand pas encore. Il faut confirmer chez nous le prochain match pour arriver à 12 points. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Ça prouve encore qu'on doit rester attentif pour garder un niveau de régularité. Mais je félicite les joueurs parce qu'ils ont fait vraiment preuve de beaucoup, beaucoup de caractère en 12.
Voilà donc les propos du directeur technique lyonnais, le brésilien Juninho. Allez, du football, mais une fois n'est pas coutume, hein, sur le terrain judiciaire, la fin du procès de la sextape entre Mathieu Valbuena, certains acolytes, et un autre certain Karim Benzema. Ce procès aura duré 3 jours. Le jugement sera rendu le 24 novembre.
L'incertitude concernant la date à laquelle le jugement serait rendu aura plané jusqu'à la fin de la dernière plaidoirie des avocats de la défense. Le président du tribunal, Christophe Morgan, se donne donc un mois pour rendre sa décision concernant les 5 prévenus dans cette affaire de chantage présumé à la vidéo intime de Mathieu Valbuena. Logique pour son avocat.
C'est vrai que lorsqu'il avait été envisagé que le délibéré soit plus court, tout le monde était un peu surpris. Moi, ça me paraît très logique que le tribunal prenne le temps de motiver sa décision.
Sentiment partagé par les avocats de la défense, notamment ceux de Karim Benzema, contre lequel 10 mois de prison avec sursis ont été requis. Ils avaient justement demandé la veille que la décision ne soit pas rendue hier, alors que le vote pour le Ballon d'Or se clôture ce week-end. Ont-ils été entendus par le président? Le défenseur de Karim Benzema, Sylvain Cormier, en doute.
Ah, alors, je ne crois pas que ce soit une grande préoccupation pour le tribunal. Alors, pour nous, oui, c'est important, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment de lien entre les deux événements. En tout cas, on est aujourd'hui devant quelque chose qui me paraît évident, c'est que ce dossier ne peut pas être jugé en quelques heures.
Surtout après 6 ans d'une instruction rendue très médiatique par la seule présence de Karim Benzema dans le dossier.
Et voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste de l'émission. Il est 13h20, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. À tout de suite.
détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Et notre rétro sonore à présent, nous sommes le 23 octobre 1983. Deux attentats frappaient Beyrouth, la capitale du Liban. Des attentats visant les forces américaines et françaises déployées dans le cadre de la force multinationale censée sécuriser le pays et mettre fin à la guerre civile. Le bilan a été terrible. 241 soldats américains ont été tués et 58 militaires et parachutistes français. Également, le double attentat de Beyrouth du 23 octobre 1983, c'est notre rétro sonore du jour avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Il est 5h20 lorsqu'à Beyrouth retentit une explosion très violente. Elle vise le quartier général des Marines américains. Deux minutes après seulement, une seconde explosion secoue la capitale libanaise. L'attentat vise cette fois un poste du contingent français.
Une image et un symbole pour ouvrir ce journal. L'alignement de 56 cercueils recouverts de tricolores devant le quartier général du contingent français à Beyrouth. La cérémonie de levée des corps a eu lieu hier soir sur place, François Cornet, Jean-Claude Latremblay.
56 cercueils alignés dans la clairière de la résidence des Pins, quartier général du contingent français à Beyrouth. Un dernier hommage des parachutistes à leurs camarades morts pour la paix un dimanche d'automne au Liban.
Nous étions arrivés ensemble, ici, à Beyrouth, le mois dernier, pour apporter notre pierre à l'édification de la paix en ce pays meurtri. Nous sommes fiers de vous. Au revoir, mes chers parachutistes.
Et le bilan est encore plus lourd pour les Américains qui comptent ce soir au moins 135 morts et une centaine de blessés. Une question reste posée ce soir, qui a organisé ces attentats? Washington parle de l'Iran. Il est 5h20 ce matin lorsqu'à Beyrouth retentit une explosion très violente. Elle vise le quartier général des Marines américains. Deux minutes après seulement, une seconde explosion secoue la capitale libanaise. L'attentat vise cette fois un poste du contingent français. Le Pentagone vient d'annoncer, il y a quelques minutes, que l'attentat de ce matin avait fait 135 morts parmi les Américains et au moins 59 blessés. Tout s'est passé très tôt ce matin. Un camion entre dans le parking du quartier général, puis il se lance en direction de l'entrée principale. Les sentinelles ne peuvent l'arrêter. Au moment où il atteint l'entrée, il explose. La déflagration est indescriptible. Un officier américain estime que le camion contenait une tonne d'explosifs. Voici ce qui reste maintenant de l'immeuble français de la force multinationale. Nous sommes au cœur du quartier de la périphérie sud de Beyrouth. Quelques heures après l'explosion, quatre soldats français ont expliqué qu'ils avaient vu une voiture entrer dans le sous-sol de l'immeuble et que c'est cette voiture, bourrée d'explosifs, qui aurait provoqué la destruction complète de l'édifice.
1983, le Liban est en pleine guerre civile. Plusieurs camps s'opposent depuis déjà 8 ans. Un conflit communautaire qui est très vite devenu un terrain d'affrontement pour toute la région. Palestiniens, Syriens, Israéliens ont pris les armes. Une force de maintien de la paix de l'ONU est sur place. Leur mission, aider l'armée libanaise à restaurer l'autorité de son gouvernement. Ils sont britanniques, italiens, américains et surtout français. Le 23 octobre, peu après 6h du matin, ce sont eux qui sont pris pour cible à Beyrouth. Une explosion détruit le Drakkar, un des immeubles qui abritait les parachutistes français. 8 étages réduits en un millefeuille de pierre. 73 paras sont ensevelis, 15 d'entre eux en sortiront vivants. Deux minutes avant le Drakkar, c'est le campement américain installé à l'aéroport qui explose. 241 marines sont tués, le chaos dans Beyrouth. Les attentats seront revendiqués par deux organisations terroristes, le Hezbollah et le djihad islamique. Pendant 3 jours, les secours vont creuser. François Mitterrand se rend au Liban pour un voyage éclair. La France est bouleversée.
En allant à Beyrouth, j'ai voulu m'incliner devant nos soldats morts dans l'accomplissement de leur mission. Sur place, j'ai pu éprouver le courage et le sang-froid de tous. J'ai enfin mesuré l'ampleur d'un drame qui frappe si durement tant de familles aujourd'hui déchirées, auxquelles va ma pensée douloureuse. C'est pourquoi au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. La France ne défend pas autre chose que la paix.
La France ne peut porter seule la responsabilité de la communauté des nations au Liban, déclare ce soir un communiqué du Quai d'Orsay.
350 hommes de la 11e brigade de parachutistes débarquent dans le port de Beyrouth le 24 septembre 82. S'ils reviennent ici, c'est pour assurer la sécurité des camps de Sabra Chatila après les massacres qui ont fait 450 morts et protéger les populations civiles. Ils seront rejoints par les Italiens, les Américains et les Anglais. Les Français seront bientôt 2000 avec pour mission d'entraîner aussi la jeune armée libanaise qui tente de se reconstituer. Mais déjà, des attentats et des morts parmi les soldats français. Le 23 octobre, c'est le camion piégé contre la position Drakkar en plein centre de Beyrouth. 57 morts chez les Français, plus de 200 chez les Américains. Mais la France décide de rester, estimant qu'elle est venue au Liban à l'appel du gouvernement légal d'Amin Gemayel. Les Anglais, les Américains, les Italiens estiment que leur mission au Liban n'a plus de raison d'être. C'est l'adieu à Beyrouth pour ces hommes, mais le contingent français restera seul et c'est lui qui va même assurer le passage de la ligne de démarcation entre les deux secteurs de la capitale libanaise.
Vous êtes avec Radio SBS en français. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Compagnon d'un mauvais jour. Et c'était le groupe Feu Chatterton avec cette chanson Compagnon qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. Sélection musicale que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook. Il est 13h35. On fait une courte pause et on parle de vaccination contre le Covid-19 avec une stratégie. Mais c'est tout de suite après ça.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
On va parler de la vaccination contre le Covid-19 en entreprise. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité où elle est obligatoire en Australie, mais pour les autres, où ça n'est pas le cas, ça reste une information importante pour les dirigeants sur leur personnel, dans la mesure où la pandémie n'est pas encore terminée. Et cette information, elle peut leur permettre d'élaborer des plans pour reprendre le travail au bureau dans des conditions relativement sûres. Sauf qu'on parle évidemment d'informations relatives à la santé, qu'elles sont donc couvertes par le droit à la vie privée, et elles doivent donc être manipulées avec la plus grande prudence. Pour essayer de concilier ces deux impératifs, il y a une entreprise australienne qui a lancé il y a quelques jours un logiciel destiné aux entreprises qui s'appelle Vax Central. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Josh Cairns, le PDG d'Op Central, l'entreprise qui a créé ce produit, nous l'explique.
Vax Central is a purpose-built software platform which helps organizations to capture, manage and report upon the vaccination status of their staff. The way it does that is using a private form-based model. So users, organizations that want to use the system register, they then configure their form, they set up which data they want to capture and how they want to store that, who will have access to it within their organization to maintain strict privacy controls. And then all of their staff get an invitation where they can create a secure password to make sure that everything is behind the encryption of their user account. And then they simply submit a form each time they receive a vaccination or even schedule a vaccination. They simply submit a form and then the data is reportable by company admins.
En clair, il s'agit donc d'une base de données sécurisée à laquelle l'accès est limité à un nombre très restreint de personnes au sein de l'entreprise cliente de ce produit. Et ce produit a, semble-t-il, réussi à trouver son public puisque moins d'un mois après son lancement, plusieurs milliers d'entreprises en Australie l'utiliseraient déjà, d'après Josh Cairns.
We've got around about 6,500 businesses using the platform already. In the last 2 weeks, which for us is quite a staggering take-up rate. That's a lot more than what we had expected. Fortunately, we have the capacity to deliver on that, so it hasn't put any strain on the business, obviously. But yeah, there's about 6,500 businesses using the system already.
Le succès est donc au rendez-vous, mais cet outil qui au final permet aux entreprises de collecter et de stocker des données sur la santé de leurs employés n'incite-t-il pas ces dernières à se mettre en infraction ? Josh Cairns assure que non. Il estime par ailleurs que les questions d'ordre juridique sur ce sujet relèvent de la responsabilité des entreprises qui utilisent son logiciel.
We always advise, and it's part of our registration, even part of the conversational discussions that we have, you know, to assist our clients, is that we do require them or request for them to seek their own legal advice in terms of what they use our software for. Now, if they choose to use our software to capture vaccination records, store them and report on them, then we have to assume that that's in line with the legal advice that they've independently sought. If they choose to use our software for anything else, again, that's in line with, we sort of likened it to the vehicle analogy that if somebody buys a vehicle, they can then choose what they want to do with that vehicle. They can choose to obey the law and, you know, drive down the freeway at 90 kilometers an hour and do what they want to do. Or again, if they have their own circumstances. So I certainly don't believe in any situation that we've encountered, and certainly the knowledge that we have and any reason to reasonably expect that anyone's using it in a way that would contravene either the Privacy Act or any other Australian law. But again, we request that our clients seek their own legal advice on that, because depending on different states, depending on different industries, depending on different statutes that could be in existence, we're a software company. We're so proud of the software you build. We build world-class software, but we are not a law firm, certainly not one that would be qualified to give advice on every industry and every situation that sometimes quite unique that each business would be encountering.
Mais pour compléter la réponse de Josh Cairns sur ce sujet, il reconnaît toutefois qu'il s'agit d'un sujet extrêmement sensible et qui peut même provoquer le malaise au sein des entreprises.
One of the challenging parts that organizations are facing is not just how do we get this data, how do we manage it, and how do we legally protect ourselves. It's almost culturally to sort of say, how do we even ask the question? Like, this is such private information. How do we even ask somebody to give us this information that we've never needed before? And we don't particularly enjoy asking for or even sort of consuming or capturing this data. And that's a really important part of it as well. And I'm not sure that there's been a lot of coverage on that discussion, but I know that a lot of really, really good organizations that care so much about their people are kind of almost feeling like, man, we respect our people's privacy so much. We respect their rights to their privacy, but we really have to capture this stuff. How do we ask for this in a dignified way that's not going to compromise our company culture and have everyone thinking that we're spying on them? I know I'm giving the extreme examples, but that's one of the other things that we've worked really, really hard on, is helping businesses to actually ask that awkward, uncomfortable, sometimes seemingly inappropriate question. But, you know, I guess they need that data, so they've got to find a way to ask that somehow.
En tout cas, Vax Central ne compte pas s'arrêter à l'Australie. L'entreprise qui a développé ce logiciel compte d'ailleurs proposer ses services également à l'étranger d'ici peu.
We've got some plans in place to do that in the coming 14 days. The first of those two, the first two regions that we'll be expanding to with some partners that we have is Singapore and then North America.
Pour conclure, on va rappeler qu'au-delà du monde de l'entreprise, la campagne de vaccination contre le coronavirus est désormais très avancée en Australie. Plus de 80% de la population adulte est vaccinée en Nouvelle-Galles du Sud et dans le territoire de la capitale australienne. Par ailleurs, on vient de franchir le seuil de 70% des personnes de plus de 16 ans qui ont reçu les deux doses de vaccin au niveau national.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Voilà, c'était donc Gaëtan Roussel avec Une seconde ou La vie entière, 13h45. On fait une courte pause et on parle d'un livre poignant qui vient juste d'être publié tout de suite après ça.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Jeanne Brooke a vécu à Sydney pendant 5 ans et puis elle a choisi en mars 2020 de rentrer en France juste avant le début de la pandémie de coronavirus. En mars 2018, elle avait été victime d'un viol, un traumatisme terrible qu'elle a pu surmonter notamment grâce au professionnalisme des policiers qui ont reçu sa plainte dans un commissariat de Sydney, puis ensuite mené l'enquête, grâce aussi au soutien psychologique qui lui a été apporté gratuitement par les services de l'État, et enfin grâce à la condamnation de son agresseur devant un tribunal. Cette expérience terrible, elle l'a d'abord racontée dans un long témoignage paru sur le site Slate, et plus récemment, dans un livre qui vient de paraître et qui s'intitule 0,9%, plaidoyer pour ne plus jamais la fermer. 0,9%, c'est en fait le pourcentage des viols et tentatives de viol qui font l'objet d'une condamnation en France. Jeanne Brooke nous a parlé il y a quelques mois, voici son témoignage.
Alors, j'avais lu ton témoignage sur Slate et tu expliques que, en fait, tu as mis beaucoup de temps à te rendre compte de vraiment ce qui t'était arrivé, enfin, qu'il y a eu plusieurs phases, mais que sur un délai relativement court, tu avais l'impression que tu avais absorbé le choc et que tu étais déjà passé à autre chose. Et plusieurs mois plus tard, tu t'es rendu compte que c'était toujours très vif et que tu n'avais pas encore du tout digéré les événements.
Ouais, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte plus tard que j'avais fait un énorme déni. Et donc oui, sur le moment, je suis allée chez les flics, mais c'était vraiment un réflexe de quelqu'un qui a lu vraiment beaucoup d'articles sur le sujet. J'ai lu et relu que vraiment, quand il se passe un truc comme ça, il faut directement aller chez les flics. Et donc, j'y suis allée, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais choquée, mais je me rendais pas compte à quel point j'étais atteinte. Et en fait, j'étais tout simplement en train de faire un déni. Et je pense que c'est un peu le piège d'ailleurs, et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on va pas directement chez les flics. Enfin, pourquoi beaucoup de filles n'y vont, ou de mecs d'ailleurs, n'y vont pas directement. C'est que sur le moment, tu te rends pas compte que ça fait hyper mal, en fait. Et tu dis, ah, c'est ça, en fait, bah, ça va, je suis pas blessée, j'ai pas mal, j'ai pas été menacée. Entre guillemets, parce que c'était pas violent, en fait. C'était pendant, enfin, si, c'était violent, mais j'étais en train de dormir, donc je m'en suis pas rendu compte. On m'a pas mis un couteau sous la gorge. Donc, pour revenir à ta question, oui, du coup, j'ai fait un déni, et je pense que ce déni, beaucoup de personnes l'ont, et c'est ce qui fait que tu te rends pas forcément compte que ce qui vient de t'arriver, c'est grave, et que du coup, les gens vont pas chez les flics. Mais suite à mon témoignage, j'ai reçu beaucoup de mails, et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont pas chez les flics, parce que sur le moment, tu te rends pas compte, en fait, t'es un peu... t'es pas tétanisé, mais t'es là, ah d'accord, bon bah c'est ça, bon bah finalement c'est pas si grave, et puis bah je veux continuer, de toute manière c'est un peu une tannée d'aller chez les flics, de faire un procès et tout, mais en fait au final ça finit toujours par t'exploser à la figure plus tard, je pense.
Alors il y a cet aspect de déni, mais vu que tu disais à l'instant que c'était déjà un sujet sur lequel tu t'étais pas mal documenté, qui t'intéressait beaucoup, et on sait que en tout cas en France les victimes sont pas toujours très très bien reçue quand elle se rend au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte, tout simplement expliquer ce qui vient de leur arriver. Est-ce que quand toi tu es allé directement à la police en Australie, tu avais une part d'appréhension en te disant, par rapport à cette question-là, comment est-ce qu'ils vont me recevoir? Est-ce que on va me considérer comme une victime? Est-ce qu'on va remettre en cause la légitimité de ma plainte ou est-ce qu'il y a ce genre de choses qui t'a traversé l'esprit
J'étais assez confiante en allant chez la police. Le seul truc à la rigueur qui me freinait un peu, c'était presque moi-même, en fait. C'était de me dire, putain, je suis vraiment en train d'aller au commissariat maintenant, et est-ce que je suis sûre de ce qui m'est arrivé? Et en fait, même si j'avais toutes les preuves qu'il fallait, que j'étais sûre à 100%, tu peux pas t'empêcher de te dire, ah, attention, fais gaffe, parce que là, tu vas quand même appuyer sur un truc où tu peux plus revenir en arrière, il faut vraiment que tu sois sûre. sûr. Et j'étais sûre à 10 000%, mais c'était plus cette petite voix-là qui faisait que c'était flippant, en fait, d'aller au commissariat. Après, je me suis pas dit que j'allais être mal reçue. Enfin, je pense que j'ai pas eu le temps de me poser la question parce qu'en fait, je suis vraiment sortie de chez le mec et je suis allée directement au commissariat et ça m'a pris 5 minutes parce que c'était vraiment tout près. Donc, je pense que j'ai pas eu le temps d'avoir peur et je suis arrivée, je suis tombée sur un flic homme et je lui ai dit, je me suis fait violer, est-ce que je peux parler à une flic femme? Et il est revenu, il m'a dit, je suis désolée, pour le moment, il n'y a pas de femme, il n'y a que moi. Et donc, pareil, c'est à ce moment-là, peut-être où je me suis dit, ah mince, c'est un mec. Et puis, en fait, au bout de 2 secondes, je me suis dit, non, mais enfin, au point où t'en es, c'est vraiment pas grave. Tu vas faire comme si c'était une fille et puis même, tu t'en fous. Tu vas lui raconter, ça va bien se passer.
Et alors, par rapport à ça, dans ton témoignage, tu reviens longuement sur la prise en charge, à la fois par la police, les services de santé, puis ensuite la justice. Et globalement, tu en ressors quelque chose de très positif. Hein, tu as été traité correctement et comme tu le devrais, comme une victime d'un crime.
Du coup, je suis arrivée au commissariat et j'ai raconté ce qui s'est passé. Et effectivement, tout de suite, on s'est hyper occupé de moi. Ils m'ont fait raconter mon histoire plusieurs fois, mais ils étaient hyper, enfin, ils étaient vachement dans l'écoute et dans l'empathie. Je me souviens d'une des flics, elle n'arrêtait pas de me donner des mouchoirs et de l'eau parce que j'étais vraiment choquée, en train de pleurer et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et donc les flics étaient hyper sympas, ils étaient hyper pros, ils savaient exactement comment ça allait se passer. Donc du coup, par exemple, à un moment, je dis, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et la flic, elle m'a dit, bah non, en fait, il faut pas que tu ailles aux toilettes parce que après, on va t'emmener à l'hôpital. Et du coup, si tu vas aux toilettes, ça peut faire disparaître des traces ADN et tout. Avant d'emmener à l'hôpital, on est passé chez moi pour que je prenne des habits parce qu'ils savaient très bien que la police scientifique allait prendre mes habits ensuite à l'hôpital. Donc, pendant la nuit, on s'est très bien occupé de moi. Le lendemain, directement, on m'a accompagnée dans un autre commissariat pour voir un détective, etc. Et pareil, et donc là, j'étais en train de m'effondrer de fatigue. Et donc, ils m'ont ramenée chez moi. Enfin, ils étaient vraiment hyper gentils, comme si c'était des amis un peu et qu'ils voulaient que ce soit le moins douloureux et pour moi, donc ils étaient hyper sympas. Et puis ensuite, c'est eux qui me rappelaient pour me dire où est-ce qu'ils en étaient de l'enquête. Ça, je pense que c'est assez différent de la France aussi où t'as pas trop de nouvelles une fois que t'as déposé une plainte et où si tu fais pas des pieds et des mains, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc moi, à chaque fois, ils m'appelaient pour me dire où on était, mais ils s'assuraient que j'étais bien ok pour continuer et pour aller jusqu'au procès, etc. Donc ça, c'était la partie flic. Mais ensuite, j'ai reçu des messages de la partie un peu suivi psychologique de l'hôpital, parce que suite au fait que du coup j'étais passée aux urgences pour qu'ils fassent tous les relevés ADN, qu'ils me fassent remplir un questionnaire, etc. Et là du coup mon nom leur avait été communiqué et au département un peu ça s'appelle le Sexual Assault Center. Et du coup, on m'a appelé en me demandant, déjà pour me demander comment j'allais, et point numéro 2, en me disant si jamais tu veux venir voir une counselor, tu peux, et c'est gratuit, et voilà. Et puis ensuite, on m'a encore fait remplir des papiers pour que j'aie accès à ce qu'on appelle le victim support. Et donc là, du coup, vu ce qui m'était arrivé, j'avais le droit à 20 séances de psy, mais avec un autre psy encore que celui de l'hôpital. Et un paiement de dédommagement qui était pas énorme en fait, mais bon en fait c'était quand même hyper cool d'avoir ça parce que pareil, enfin vraiment en France on est à des années-lumière d'avoir un suivi psychologique et un dédommagement comme ce que j'ai eu en fait.
Il y a un point, enfin moi que j'avais qui m'avait frappé dans ton texte, c'est que tu expliquais que contrairement à ce que malheureusement il se passe beaucoup encore dans les commissariats français, à aucun moment on t'a culpabilisé.
Ouais, non, ils n'ont pas du tout commenté ce qui s'était passé. Et c'est vrai que j'avais une petite appréhension de me dire, je savais que j'étais dans mon bon droit, mais effectivement, peut-être qu'un flic un peu débile aurait pu dire, ah ouais, donc toi, tu rencontres un mec en boîte et tu rentres avec lui direct 2 heures après, quoi. Et je pense qu'un flic con aurait pu dire ça, mais en l'occurrence, en Australie, non, pas du tout.
Donc, tu as écrit ce texte qui a été publié sur Slate. Quand tu l'as écrit, en fait, c'était quoi ton objectif ?
Alors, en fait, au tout début, je me souviens très bien quand j'ai écrit la première partie, c'était juste sur la nuit de l'agression en elle-même et ensuite la nuit au commissariat, à l'hôpital, etc. Et ça, je l'ai écrit parce que je savais que ça allait mettre... J'avais pas encore de date de procès. C'était peut-être quelques semaines après l'agression. Et je savais que le procès, ça allait mettre du temps à arriver. Et je me disais, il faut pas que j'oublie ce qui s'est passé parce que... Enfin, même si j'ai fait une déposition où tout est écrit, en fait, il faut que j'ai un moyen de m'en souvenir. Et du coup, j'ai tout écrit pour pouvoir me dire, OK, maintenant, c'est écrit. Donc, c'est dans ton PC, voilà. Et tu le reliras avant d'aller au procès. Mais comme ça, tu peux t'en débarrasser et t'es pas obligé de garder tous les détails en tête. Enfin, je sais pas, je pensais que le fait de l'écrire, ça allait du coup l'enlever un peu de ma tête et que j'irais mieux après. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit la première partie. Et puis ensuite, une fois que le procès est passé, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que ça arrive vraiment pas souvent que des affaires de viol se terminent par une condamnation. Et en fait, c'est presque un devoir de témoigner et d'expliquer comment ça s'est passé. Et du coup, je me suis dit, j'ai lu plein de témoignages, mais je pense que j'ai jamais lu un témoignage qui se finissait entre guillemets bien. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et puis, c'était aussi une façon de rendre un peu ce que j'avais eu, c'est-à-dire que. Je suis consciente que si je suis allée chez les flics de manière instinctive, c'est parce que j'avais lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages avant. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut continuer à témoigner le plus possible et peut-être que mon témoignage, ce sera celui ou un de ceux qui fera qu'une prochaine victime, elle n'hésitera pas une seconde et elle ira chez les flics. Donc, au final, ça avait un peu plein de buts qui étaient différents. C'était à la fois pour moi, mon souvenir, pour témoigner, pour montrer que c'est possible. En fait, c'est assez ambivalent ce que je ressens parce que d'un côté, oui, c'est terrible et je pense qu'il y a un moment où ça m'a vraiment détruite et où je pense que je suis plus la même qu'avant et ça m'a transformée pour toujours. Et d'un autre côté, en fait, c'est vraiment un crime qui est tabou et qui fait que quand on parle aux gens, il y a tout de suite un truc qui tombe un peu, tu vois, un peu comme un ange qui passe. Et ça, en fait, je ne veux pas dire que c'est dérangeant, mais en fait, je me dis que peut-être si on considérait que le viol, oui, c'était grave, mais que ce n'était pas perçu avec gênance comme ça, ce serait peut-être plus facile pour les victimes, parce que là, en fait, il y a plein de victimes qui n'osent pas en parler.
Pour revenir en Australie et à ce que je te disais tout à l'heure sur le sentiment général et partagé que globalement, on se sent plus sûr quand on est une femme en Australie qu'en France. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais adresser aux Françaises, enfin, aux femmes en général qui sont en Australie et qui viennent d'ailleurs en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire en plus de ce que évidemment tu as déjà écrit sur ton expérience à toi?
Ouais, ce que je veux dire, c'est que même si en Australie on a l'impression d'être hyper safe et tout, en fait, enfin, peu importe dans quel pays t'es, de toute manière, il y a des timbrés partout. Mais bon, en même temps, on va pas s'arrêter de sortir. Et voilà, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, je peux même pas regretter vraiment d'être allée à la Soda Factory parce que je veux pas arrêter. De sortir avec mes potes et tout, mais c'est juste si vous arrive une merde comme ça, et surtout en Australie, faut vraiment pas hésiter à aller chez les flics parce que pour le coup ils sont hyper hyper formés sur le sujet et hyper compréhensifs et hyper empathiques. Et je pense que s'il y a bien un pays où faut pas avoir peur d'aller au commissariat et où potentiellement il y a plus de chances que le procès ait une issue positive, c'est en Australie.
Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Prochain rendez-vous avec nous, c'est demain dimanche à 13h. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.